Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Libre Entreprise, le réseau d'entreprises du logiciel libre qui partage des valeurs et modes de fonctionnement basés sur la démocratie d'entreprise, la transparence et la compétence. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Vincent Calame sur le choix des noms en informatique et aussi la chronique d'Antanac sur téléphone et vie privée. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Nous sommes mardi 13 octobre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, et cliquez sur chat. Et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Je précise que nous réenregistrons ce début d'émission à distance, notamment avec le premier intervenant, car en direct mardi 13 octobre, nous avions eu des problèmes techniques et le début de l'émission n'avait pas été diffusé. Donc ceci explique la différence de son que vous allez pouvoir entendre entre le début et la suite de l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors je vais commencer par vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses en fin d'émission. Vous pouvez proposer des réponses soit sur le salon web de la radio, soit sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Et en fait, c'est le premier intervenant, Vincent, qui va nous parler du choix des noms en informatique, qui m'a suggéré, ou plutôt l'idée m'est venue à la lecture de sa chronique. Alors la question est, quel est le nom de l'association qui porte ce merveilleux projet de radio Cause Commune. Je répète, quel est le nom de l'association qui porte ce merveilleux projet de radio Cause Commune? Tout de suite, place au premier sujet. Vincent Calame, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous fait partager son témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Chose vue, entendue et vécue autour de l'usage des logiciels libres au sein de collectifs, associations, mouvements et équipes en tout genre, c'est la chronique « Jouons collectif ». Le thème du jour, le choix des noms en informatique. Mais écoute Vincent, explique-nous un petit peu ce choix des noms en informatique.
Oui, bonjour. L'idée de cette chronique m'est venue lors de la rédaction de ma chronique précédente qui portait sur la terminologie utilisée en informatique et certains choix malheureux comme maître et esclave. En écrivant cette chronique, donc, je me suis rendu compte qu'en informatique, nous avions très souvent comme tâche de nommer les choses. À l'intérieur de notre propre code, nous manipulons en permanence des objets et des concepts qui doivent porter des noms. Le début de la plupart des fichiers de code informatique commence par la déclaration des variables, où justement, on nomme ce qui va être manipulé. Nommer est tout un art, il faut être à la fois concis, car on va devoir réécrire le nom souvent, et compréhensible. Alors cet art est aussi un jeu quand il s'agit de donner un nom à un nouveau projet, un nouvel outil. Dans le monde de l'entreprise, cette mission de donner un nom est confiée à des agences de communication spécialisées. Quand vous êtes bénévole ou vous travaillez pour le secteur associatif, la discussion est beaucoup plus collective et c'est là que ça devient ludique, car il faut faire preuve d'imagination. L'April, par exemple, récemment a dû trouver des noms pour son chaton ou pour cette émission même.
Ah bah oui, tout à fait. Choisir des noms fait partie des activités récurrentes. Alors sur les chatons, on va rappeler d'abord que chaton, donc avec un S, le site chaton.org, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc qui propose des services éthiques à toute personne. Et notre contribution à ce collectif, c'est le site Chapril, chapril.org. Et effectivement, que veut dire Chapril? Chapril, il pourrait signifier plein de choses, notamment chaton aprilien pour le respect de votre informatique et de vos libertés, centre d'hébergement aprilien pour le respect d'une informatique libre, ou encore chaton aprilien pour le respect d'une informatique libre. Ou, plus simplement, c'est sans doute un jeu de mots, un mot valise entre chaton et April. Et concernant l'émission Libre à vous, le nom de l'émission Libre à vous, comme on documente tout à l'après, j'ai retrouvé les références du choix de ce nom-là parmi de nombreuses propositions, le choix vient pour être dans l'esprit de « le libre vient à vous », et également dans l'esprit de « libre à vous de participer, contribuer. Donc c'est le côté collectif, ce qui correspond évidemment à ta chronique qui s'appelle, je le rappelle, « Jouons collectif ».
Tout à fait. Donc on notera un fort usage à l'April du mot « libre », ce qui ne nous étonne pas. Alors dans beaucoup de logiciels libres, on va utiliser des mots anglais. Bon, cela fait chic, branché, puis ça donne tout de suite l'impression de travailler à l'international. Alors, il en résulte une utilisation immodérée du mot « open ». Alors, open truc, open machin, il est partout. Cela aboutit d'ailleurs à des confusions amusantes avec d'autres utilisations en français d'open, comme dans open de tennis, et surtout dans open bar, terme qui, dans le cas du libre, désigne des émissaires français qui n'ont pas du tout une activité liée au libre.
Alors effectivement, open bar, on a souvent parlé dans l'émission Libre à vous, et la première émission d'ailleurs de mai 2018 était entièrement consacrée à l'open bar Microsoft Défense, c'est-à-dire le contrat qui lie depuis 2008 le ministère de la Défense et Microsoft. C'est des contrats en fait qui de type location sur une durée de 4 ans, qui permettent un usage de la plupart des logiciels de Microsoft par le ministère de la Défense, et au bout de 4 ans, s'ils veulent continuer à utiliser ces systèmes, ils doivent renouveler ce contrat. Et en fait, ils n'ont pas le temps d'étudier d'autres alternatives, notamment vers, par exemple, la migration vers le logiciel libre. Donc en fait, ils sont, le ministère est pieds et poings liés au ministère de, enfin à Microsoft. Et donc c'est pour ça qu'on a eu réutilisé ce terme open bar.
Il existe plusieurs pistes, heureusement, pour sortir des sentiers battus de l'open machin chose. La première est d'explorer d'autres langues que celles de notre voisinage immédiat. Je ne citerai que deux exemples célèbres qui parlent d'eux-mêmes. Ubuntu, la distribution GNU Linux bien connue, parce que Ubuntu est un mot issu de langue bantoue du sud de l'Afrique, qui désigne une notion proche des concepts d'humanité et de fraternité. Je cite Wikipédia. Et surtout le mot « wiki », qui signifie en hawaïen « rapide, vite ou informel ». Cette trouvaille, que je trouve géniale, a eu un succès immédiat, amplifié bien sûr par le succès de Wikipédia. Alors, si vous n'avez pas la chance de connaître une autre langue que celle enseignée couramment en France, il existe toujours un vivier inépuisable et dans lequel le français ne cesse de puiser depuis des siècles pour forger de nouveaux concepts, à savoir le latin et le grec.
Mais Vincent, tout le monde n'a pas suivi les cours de latin et de grec à l'école.
Bien sûr, mais c'est là que je place cette chronique sous le haut patronage de René Goscinny, un de nos grands auteurs du XXe siècle. Les albums d'Astérix sont remplis de citations latines. Or, de son propre aveu, René Goscinny n'a jamais fait de latin. Toutes ces citations viennent des pages roses du dictionnaire, Larousse. Il s'amusait même d'avoir reçu des lettres de latinistes distingués lui signalant une erreur. En fait, nous baignons dans le latin, que nous ayons fait ou non à l'école. Quant au grec, la dette des sciences et des techniques à son égard est énorme, il n'y a qu'à penser à des mots comme téléphone ou au micro que j'utilise en ce moment.
Alors, cher Vincent, comment procède-t-on ?
Donc, je vais vous prendre un exemple. Moi, je cherchais un nom pour un logiciel que je code, qui est un moteur de recherche, et je voulais justement éviter OpenSearch, évidemment. Je suis allé sur un site, lexilogos.com, qui offre la possibilité de chercher dans de vieux dictionnaires numérisés. Et donc j'ai regardé le mot « chercher », qui possède en latin plusieurs entrées, « quaero »,« scutor »,« investigo ». Et comme par ailleurs en latin, il y a beaucoup, les déclinaisons sont très nombreuses, on a le choix pour une même racine à une grande variété de formes. Et j'ai par exemple choisi « scrutari », qui est l'infinitif de « scutor », et donc qui signifie plus particulièrement « fouiller ». Et donc, ça, c'est le terme d'ailleurs à donner en français « scruter » et « scrutateur ». Pour le grec, j'ai procédé de la même manière, il faut seulement être un peu plus familier d'alphabet. Pour un autre projet, j'ai trouvé le terme « desmos » qui veut dire « lien ». C'est une racine très peu utilisée en français, à part le terme « desmodromique » qui est connu des amateurs de mécanique. Et avec ce terme, ça m'a permis de construire des mots comme « desmographie » pour la représentation des liens entre des éléments, ou desmogramme, qui pourrait être synonyme de carte conceptuelle. Donc les infinités sont nombreuses, et pour conclure, et pour revenir au réflexe d'utiliser l'anglais pour des soucis d'universalité, qui sont louables, utiliser le latin et le grec ne pose aucun problème, justement, d'universalité, parce qu'elles ont joué ce rôle pendant des siècles, notamment dans la communauté scientifique. La grande majorité des mots anglais de plus de trois syllabes viennent d'ailleurs du latin ou du grec, et rappelons qu'Isaac Newton a écrit son ouvrage fondamental en latin, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Donc un mot latin construit à partir du grec sera adopté immédiatement en anglais comme en français. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à vous plonger dans les dictionnaires et à explorer les trésors de l'étymologie pour faire preuve d'un peu d'originalité. Pour information, je signale que ouvert peut se traduire par expositus en latin et code se dit codex. Donc, ce logiciel est Expositum Codex. Bon, ça change un petit peu de ce logiciel est open source, non?
Alors, effectivement, ça change, mais alors comment on dit logiciel libre? Est-ce que tu le sais?
Alors, logiciel est une construction récente à partir de logique et de matériel, et de logique venant lui-même directement de logicus en latin. Et donc, on pourrait imaginer, alors, pour libre, c'est liber, pour logiciel, donc il y a logicus, et puis matériel se dit instrumentum, on pourrait imaginer liberum, logicum, instrumentum. Mais bon, là, mes déclinaisons ne sont pas bonnes, hein. Les latinistes me corrigeront.
Bah écoute, les latinistes qui nous écoutent nous corrigeront, en tout cas c'est très joli, effectivement. Bah écoute, je te remercie donc pour cette chronique sur le choix des noms. Donc c'était la chronique de Vincent Calam, Jouons Collectif. Je te souhaite une belle fin de journée, on se retrouve le mois prochain.
Merci, oui.
Alors on va faire une pause musicale. Aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site auboutdufil.com nous fait découvrir l'artiste Miyu. Nous allons écouter un premier titre intitulé Hold On. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Hold On par Miyu, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, qui permet la réutilisation légale et gratuite, la modification, la diffusion, à condition de créditer le nom de l'artiste, le titre du morceau et la source du fichier original. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio, causecommune.fm. Comme nous avons eu un problème technique au début de l'émission, je vais vous rappeler la question quiz qui porte sur les noms que Vincent Calam a abordé juste avant, mais que vous n'avez pas eu le plaisir d'entendre, mais que vous entendrez en podcast. Je vous le promets, on va le réenregistrer. La question du quiz, c'est quel est le nom de l'association qui porte ce merveilleux projet de Radio Cause Commune? Je donnerai la réponse à la fin de l'émission, mais évidemment, vous pouvez la proposer notamment sur le salon web de la radio. Donc vous écoutez toujours Radio Cause Commune 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Rejoignez-nous sur le site, bouton de chat, salon libre à vous. On passe au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre notre sujet principal qui va porter sur le réseau Libre Entreprise qui regroupe des entreprises du logiciel libre qui partagent un certain nombre de valeurs et de méthodes de fonctionnement. Donc, avec nous au téléphone, deux invités, Catherine Hens. Alors, vérifions qu'elle est bien présente. Bonjour, Catherine.
Oui, bonjour.
Jean Couteau. Jean, est-ce que tu es avec nous ?
Bonjour, je suis bien là.
Bon, très bien. Alors, comme vous êtes tous les deux au téléphone, n'hésitez pas, quand vous voulez intervenir, à le dire, hein, parce que comme je ne vous vois pas, je ne peux pas répartir la parole de façon habituelle. Donc, nous allons parler de Libre Entreprise. On en a déjà parlé dans une précédente émission, mais là, on va aborder avec deux nouvelles entreprises, donc Néréide et Code Lutin. Donc, déjà, une première question, toute simple, une présentation individuelle. Qui êtes-vous ? Et puis, quelques mots de présentation de vos deux structures d'un point de vue métier logiciel libre. Donc, on va commencer par Catherine Hens.
C'est gentil. Je bosse en fait chez Néréide depuis sa création. Donc, on a créé Néréide en 2004 et je m'occupe de tout ce qui touche à la gestion, donc toute la paperasserie, que ce soit comptable, administratif, fiscal. Voilà. Après, pour ce qui est de Néréide, on est une équipe de 12 salariés. On partage évidemment tous des valeurs très fortes qui sont liées au logiciel libre, c'est-à-dire la transparence, le partage. Et même notre fonctionnement qui s'apparaît un peu à la méthode agile. Notre métier, c'est de bâtir des solutions de gestion pour les entreprises en intégrant le RP, donc Apache Office. Et bien sûr, notre objectif, c'est d'apporter à ces sociétés de la facilité, une simplicité d'usage, et tout en restant efficace, performant et leur permettant de développer leur activité métier. Voilà.
D'accord, merci. Et de ton côté, Jean Couteau.
Oui, alors donc moi, ça fait 12 ans que je suis chez Code Lutin, je m'occupe du commercial et je fais du dev, du développement logiciel aussi à côté. Et du côté de Code Lutin, nous, on est une entreprise d'experts en développement Java et JavaScript, donc on fait du développement sur mesure pour nos clients sur une base de briques logiciel libre. Donc on travaille avec différents secteurs, la recherche, la banque, des télévisions connectées, des ministères. Et en fait, on incite nos clients à ce que tout ce qu'on développe soit publié sous licence libre. Donc ça fonctionne plutôt pas mal avec les laboratoires de recherche. Avec nos clients privés ou les ministères, c'est assez variable. Donc il y en a qui jouent le jeu, d'autres beaucoup moins. Mais on milite.
D'accord. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de revenir là-dessus dans le cours de la discussion. Alors, on va parler du réseau Libre Entreprise. Alors déjà, question introductive, après on détaillera évidemment. Comment vous présentez le réseau Libre Entreprise quand il vous arrive d'en parler peut-être autour de vous ? Et quels sont les grands principes partagés au sein de ce réseau et qu'on détaillera par la suite ? Qui veut commencer ?
Alors, je vais commencer, c'est Jean. Alors en général, quand on nous pose la question et qu'on parle du réseau Libre Entreprise, on le présente comme des entreprises, des sociétés de services en logiciel libre qui ont décidé de se regrouper parce qu'elles partagent en fait un mode de fonctionnement qui est similaire. Catherine en a parlé rapidement tout à l'heure, qui est le mode de fonctionnement des communautés du logiciel libre, donc qui est tendu à l'intérieur des structures. Donc ça se rapproche de l'agilité et c'est surtout de la démocratie d'entreprise. Et donc de là découle tout un lot de valeurs et qu'on a regroupé dans une charte qui est présente sur notre site libre-entreprise.org.
D'accord. Catherine, est-ce que tu veux compléter ?
Non, effectivement, la démocratie d'entreprise est vraiment ce qui nous rapproche et qui se résume à un homme, une voix déjà. Donc c'est effectivement ce qui est important pour nous tous.
D'accord. Je vais préciser que l'agilité, on a déjà parlé dans l'émission Libre à vous avec Alexis Monville, donc vous retrouverez les podcasts sur causecommune.fm et sur april.org. Avant de rentrer en détail un petit peu dans cette charte, il y a combien d'entreprises membres actuellement et depuis quand le réseau existe-t-il ?
Alors, on regroupe une quinzaine d'entreprises. De mémoire, on a essayé de réfléchir avec Jean. On pense que c'était 2002. La oui. Création du réseau.
Je confirme. Enfin, j'ai vérifié avant, mais l'annonce par notamment Emmanuel Ravière d'Easter Eggs date de 2002, oui, effectivement. Et donc, on va préciser que c'est présent en France et en Belgique. C'est-à-dire principalement en France, mais aussi il y a des entreprises en Belgique, c'est ça ?
Exactement.
D'accord. Donc pour l'instant, pas de réseau, pas de, d'organisation en dehors. Il n'y avait pas à un moment une organisation, une entreprise au Québec ou quelque chose comme ça ?
Canada, oui.
Canada ?
Exactement. Oui.
D'accord. OK. Donc une quinzaine d'entreprises en France et en Belgique. Et donc la base, c'est une charte. Alors évidemment, vous le retrouvez sur le site du réseau. Ben, on va le citer, hein, libre-entreprise.org. Et cette charte, donc le premier mot, enfin l'un des premiers mots en tout cas qui est sorti, c'est le mot de démocratie. Une personne, une voix. Donc on va peut-être commencer par cette fameuse notion de prise de décision. Donc prise de décision, c'est par consensus de l'ensemble des personnes participantes ou à défaut le principe un homme, une voix. Comment ça fonctionne concrètement ce principe de prise de décision?
Alors, le principe de, enfin, le fonctionnement des prises de décision chez nous, en tout cas chez Code Lutin, ça part tout le temps d'une discussion entre nous. Faut savoir que nous, on a des points une fois par semaine où on est en équipe tous ensemble. Sur ces réunions, tout le monde propose les sujets qu'il a envie d'aborder. Donc, ça peut être des sujets techniques. Ça peut être des sujets sur la gestion d'entreprise, il y a du commercial, enfin voilà, on aborde un peu tous les sujets et tout le monde peut s'exprimer, prendre la parole pour donner son avis. Et ensuite, en fonction des sujets, soit on a un consensus, soit on a besoin de passer au vote sur des sujets, des fois... un peu plus clivant, on a besoin de voter. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est un homme, une voix, une personne, une voix, pour prendre nos décisions. Et alors, en fonction des sujets, si c'est vraiment un sujet qui a trait au juridique de l'entreprise, là, c'est on a les critères de vote d'Assemblée générale qui sont en vigueur, donc souvent c'est aux deux tiers des voix, sinon c'est à la majorité.
D'accord.
Je sais que chez Nerid, il y a un fonctionnement qui est un petit peu différent.
Alors justement, Catherine, c'est quoi le fonctionnement? Parce que là, c'est le fonctionnement donc de Code Lutin, et donc quel est le fonctionnement côté de Nerid?
Alors, on est d'accord que c'est un fonctionnement qu'on utilise actuellement, mais en 15 ans, évidemment, on a beaucoup évolué par les personnes qui composent la société, évidemment. Donc là, je parle de ce que l'on vit en ce moment. Donc on a un rythme de réunion tous les 15 jours en après-midi. Pareil, nos réunions ont aussi beaucoup évolué. On a changé pas mal de choses. Mais en termes de décision, ce qu'on a évolué maintenant, c'est qu'on est plutôt vers en fait le consentement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas forcément sur la solution idéale que la majorité aurait souhaité. Mais on essaye de trouver un équilibre où, finalement, ça ne va pas contenter tout le monde, mais personne n'aura d'opposition. Et c'est plutôt vers ça que l'on est en train de fonctionner pour l'instant.
Donc c'est une forme de...
Un système...
Non, vas-y, continue.
Non, c'est un système de consentement plutôt qu'un vote par un pourcentage ou autre.
Donc en fait, il ne faut pas qu'il y ait une opposition forte qui soit exprimée. C'est un petit peu ça, cette idée, c'est ça ?
Tout à fait. On est attentif à ce qu'il n'y a pas d'opposition, mais ça veut dire qu'effectivement, la solution proposée n'est pas forcément celle que la majorité aurait souhaitée, mais la proposition finalement qui va être adoptée, ou l'attitude, ou l'étape qu'on va franchir, ce sera celle où personne n'aura d'opposition.
D'accord. Alors, on va peut-être préciser aussi le rôle, parce qu'on n'aurait peut-être plus d'ailleurs commencer par ça, le rôle de cette prise de décision dans le réseau Libre Entreprise, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, le point fondamental, c'est que c'est les personnes qui composent la société qui la gouvernent. Et donc, c'est pour ça qu'elles sont impliquées dans ce prise de décision et que l'ensemble de ces personnes peuvent participer à cette prise de décision, alors que dans des sociétés, on va dire, autres, souvent la décision dépend ou de la responsable, ou de la direction, enfin voilà. Donc c'est cette notion de personnes qui composent la société, qui gouvernent cette société, c'est bien ça ?
Exactement.
Oui.
D'accord. Alors, il y a. Après, je vous poserai aussi la question sur la prise de décision au sein du réseau, parce que là, c'est au sein de deux structures. Donc, je ne sais pas s'il y a aussi des prises de décision au sein du réseau, mais ça sera ma question après. Mais déjà, il y a une décision qui doit être prise assez régulièrement dans les entreprises. C'est le choix de la personne représentante légale chaque année. C'est un peu particulier parce que ça fait des responsabilités différentes, on va dire. Donc, comment ça marche chez vous, ce choix de la représentante légale chaque année? Est-ce que c'est une personne? Est-ce qu'il y a un vote? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes? Est-ce que c'est collégial? On va commencer par Code Lutin, Jean Couteau.
Oui, alors chez nous, on fait une élection tous les ans. Où on choisit parmi les personnes, les salariés qui le décident, qui décident de se présenter, en fait, lequel va nous représenter. Donc c'est ma collègue Cécilia qui le représente actuellement. Et en fait, chez nous, le représentant légal, pour nous, c'est entre guillemets juste un traitement. Il a aucune responsabilité, comme on disait tout à l'heure. Les décisions, elles sont prises tous ensemble. Le représentant légal peut être démis de ses fonctions entre guillemets par l'assemblée des salariés. À part une signature et éventuellement en cas de litiges très importants où il y a des responsabilités pénales qui pourraient être en jeu, il prend pas les décisions, il a pas de pouvoir hiérarchique sur les autres puisqu'il peut être démis par l'ensemble des salariés. Et donc c'est pour nous, c'est juste quelqu'un qui va poser sa signature.
D'accord. Et côté Néréide, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent?
Alors, c'est très proche, sachant que depuis quelques années, donc on fonctionne en fait avec un binôme, donc une cogérance qui est présente pour 2 ans. Et c'est 2 ans vissants, c'est-à-dire que tous les ans, il y en a un qui finit son mandat de 2 ans et une autre personne démarre. Ce qui fait qu'il y a toujours une personne qui, on va dire, a déjà fait 1 an qui accompagne celui qui démarre. Mais au niveau responsabilité, il n'y a effectivement aucun enjeu particulier. C'est vraiment une signature qui entérine une décision d'équipe.
D'accord. Alors, dans la partie démocratie, au-delà de la prise de décision, il y a un point donc, qui est dans votre charte, si je me souviens bien, en tout cas dans l'organisation de la plupart de vos sociétés, c'est que le capital doit être détenu par les personnes. Donc, est-ce que c'est le cas dans vos structures et comment ça fonctionne concrètement, en fait, que le capital soit détenu par les personnes, donc les personnes, a priori, les personnes salariées de l'entreprise. Catherine.
Exactement.
Ah ben Jean, alors vas-y Jean.
Ah ben vas-y Catherine.
Ok. Effectivement, ça fait partie des choses qui font partie aussi du contrat de travail, de préciser qu'on souhaite que la personne, si elle adhère à nos valeurs au bout d'une année de présence en tant que salarié, la personne intègre donc la société en prenant une part. Donc, ce qui fait qu'actuellement, nous avons un nombre de parts qui correspond au nombre de salariés, puisque tous les salariés ont plus d'un an de boîte.
D'accord. Et côté Code Lutin poursuis si tu veux.
Non, mais c'est quand la personne part, et bien évidemment,
Elle rend ses parts. D'accord.
Voilà.
Enfin, oui. D'accord. Et côté Code Lutin, Jean?
Alors, chez nous, le fonctionnement est similaire, en fait. Donc, nous, on est 20 actuellement, mais on n'est que 18 à avoir des parts, puisque les deux derniers arrivés n'ont pas encore un an d'ancienneté. Voilà, mais on est exactement sur le même principe. Alors, chez nous, c'est 50 parts. Et pas une, mais parce qu'on a des structures juridiques qui sont un peu différentes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais du coup, on est exactement sur le même principe, et quand la personne part, elle revend ses parts. Donc ça n'a pas toujours été le cas chez nous, chez Code Lutin, mais on a réussi au fil du temps à revenir à ce qu'on souhaitait. Donc tout le monde a un nombre de parts en plus qui correspond à c'est un peu différent par rapport à Néréide. Nous, ça correspond au temps de travail. Ce qui fait qu'on a 50 parts pour un temps plein. Si on a 80%, on a 40 parts, etc. Donc, on régule comme ça.
D'accord. Ok. Alors, Il est marqué, je crois, sur le site de Libre Entreprise, la notion de taille humaine. Est-ce que vous savez à peu près quelle est la moyenne, ou en tout cas, combien de personnes salariées sont dans les entreprises du réseau? Est-ce que c'est une dizaine, une vingtaine, une centaine? Et vous-même, d'ailleurs, vous êtes combien dans chacune de vos structures?
Ah, donc, alors, chez École Lutin, on est 20. Mérid, tu as dit tout à l'heure 12, je crois. Oui, c'est ça.
Oui.
Et je pense que on n'est pas au-dessus de 20. Dans toutes les structures de libre entreprise, on est entre 1 et 20.
D'accord. Alors, je suppose, voilà, donc je suppose que ça fait partie, c'est peut-être une question d'ailleurs ultérieurement sur quand on parlera de l'arrivée potentielle de nouvelles entreprises. Est-ce que cette taille humaine relativement réduite fait partie quelque part pas de la charte, mais en tout cas du mode d'organisation de libre entreprise. Mais avant ça, j'aurais parlé un petit peu du recrutement, parce qu'il y a aussi des spécificités dans le réseau au niveau du recrutement. Alors, j'ai une première question. Est-ce que le mode de fonctionnement très spécifique du réseau libre entreprise est une motivation pour le recrutement de personnes? Est-ce qu'il y a des gens qui vous contactent, non pas avant tout pour travailler dans le logiciel libre, mais pour travailler dans le logiciel libre et travailler dans le réseau libre entreprise, en tout cas dans une réseau du libre entreprise? Est-ce que vous avez ce genre de motivation?
Alors, c'est pas souvent les gens qui nous contactent, en tout cas nous, Code Lutin, pour notre mode de fonctionnement, ils n'ont pas forcément entendu parler de libre entreprise avant.
D'accord.
Parce qu'on communique aussi sur notre mode de fonctionnement, on a donné des conférences là-dessus, et notamment à Nantes où on est situé, on échange dans le réseau des développeurs, et souvent les gens viennent pour notre mode de fonctionnement, effectivement, enfin souvent, on a des personnes qui viennent pour ça, mais ils connaissent pas forcément Libre Entreprise avant, donc c'est à ce moment-là qu'on va leur expliquer plus dans le détail, tout ce que ça implique, etc., mais ils viennent pour le mode de fonctionnement, oui.
D'accord. Et côté Mérid, à Tours, hein, si je me souviens bien, vous êtes...
Oui, c'est ça, à Tours, je dirais la même chose, dans le sens où les gens viennent parce qu'ils ont, soit parce que l'annonce était un peu différente des autres, et leur a tapé dans l'œil, ils ont été voir le site, mais c'est pas par le prisme de libre entreprise qu'ils vont venir. Par contre, clairement, quand va y avoir la phase de recrutement, on va leur faire découvrir, on va parler de libre entreprise, on va parler de la charte, puisque ça fait partie des choses qu'ils auront à accepter et à signer s'ils souhaitent venir participer à l'entreprise.
D'accord. Et alors, est-ce que vous avez eu le cas de quelqu'un, d'une personne candidate très compétente et qui, donc, d'un point de vue technique, correspondrait parfaitement au profil de poste recherché, mais qui, finalement, rejoindre une structure avec ce mode de fonctionnement ne correspondait pas, en fait? Vous direz, finalement, bon, voilà, ça ne me correspond pas, prise de décision, etc. Est-ce que vous avez déjà eu ce cas ou pas du tout?
Je pense que ça va se ressentir de toute façon, parce qu'on a effectivement avec Jean des modes de recrutement différents, mais on se rejoint quand même. Nous, par exemple, en ce moment, toujours pareil, chaque recrutement évolue au fil des années, on est plutôt sur... on accueille les personnes qui souhaitent nous rejoindre avec le grand groupe. On les prévient à l'avance, mais c'est l'ensemble des temps d'équipe qui veulent rencontrer la nouvelle personne sont là, on échange et... Après, le ressenti de l'équipe est important, donc soit ça a collé, soit ça n'a pas collé. On aura aussi ressenti, nous, une difficulté à travailler avec cette personne si la réticence se fait sentir. Donc.
D'accord. Et de ton côté, genre, mais ça veut dire qu'en fait, dans ce genre d'organisation, les recrutements, on ne rencontre pas une personne, mais on rencontre toute l'équipe quelque part. Enfin, toutes les personnes qui veulent finalement participer au recrutement de la nouvelle personne qui va vous rejoindre.
Tout à fait.
Et côté Code du Temps, c'est le même fonctionnement?
Alors nous, on fait pas un rendez-vous avec tout le monde. En fait, nous, on fait par binôme ou trinôme. Il y a voilà 2-3 personnes. Donc on a un premier entretien. Ensuite, on en a un deuxième. Donc souvent, c'est jamais les mêmes personnes en fait. Et on arrive. Et ensuite, s'il y a besoin d'un troisième ou quatrième, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rencontrer. La personne, on organise 3-4 entretiens s'il y a besoin. Mais en général, on s'est rendu compte qu'avec 2 voire 3 entretiens, on arrivait à balayer un peu toutes les interrogations qu'on aurait pu avoir. Et donc, on arrive à faire des recrutements dont on est plutôt content, même dont on est très content. On a déjà eu, par contre, des cas, effectivement, de personnes qu'on a recrutées et qui se faisaient pas, en fait, à notre mode de fonctionnement.
Après coup, tu veux dire ?
Et qui sont repartis.
C'est-à-dire qu'avec l'expérience, ils se rendaient compte que ça leur correspondait pas, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Ils sont arrivés et... une personne ça, s'est décelée pendant la période d'essai, voilà, il s'est rendu compte, ça le faisait pas, il était pas à l'aise, techniquement très compétent, et rien à dire, mais voilà, au niveau humain, ça se passait très bien, mais par contre, c'était voilà, au niveau de la gestion, de la prise de décision, ça collait pas, du coup, il est parti, et on a une personne qui a mis un an avant de s'en rendre compte. Mais voilà, c'est un mode de fonctionnement qui convient à certaines personnes et pas à d'autres. Donc voilà, faut juste faire qu'il y ait la bonne compatibilité entre les gens et ensuite ça fonctionne très bien sur le long terme. Et les gens restent très longtemps dans nos structures.
Alors justement, ça me fait penser à deux questions. Je vais commencer par la première. Alors, je ne sais pas si c'est dans la charte pour toutes les entreprises du réseau, mais je crois que la plupart pratiquent le salaire égal. Donc déjà, est-ce que c'est dans la charte ou pas ? Et est-ce que ça, justement, pourquoi le salaire égal déjà ? Et est-ce que ça peut être un frein, par exemple, pour des recrutements ? Alors déjà, pourquoi le salaire égal, vous pratiquez dans la majeure partie des entreprises du réseau ?
Alors, c'est pas dans la charte.
C'est pas dans la charte, d'accord.
Je la connais pas par cœur sur le bout des doigts, mais pour moi, c'est pas dans la charte. Mais c'est effectivement, pour la totalité ou quasi-totalité des entreprises du réseau, on fonctionne de la même manière. L'idée, c'est vraiment de dire que toutes les personnes qui contribuent à l'entreprise contribuent, en gros, se donnent à 100% de leur capacité, et du coup, on n'a pas de, en fait, on valorise l'effort et pas une ancienneté ou quelque chose d'autre. En fait, tout le monde met 100% de son effort, donc on voit pas pourquoi il y en a qui auraient 110% d'une rémunération et d'autres 90%. Donc, en tout cas chez nous, c'est les gens qui travaillent 80% sont payés à 80%, et ceux qui travaillent 100% sont payés à 100%.
D'accord. Et côté Néride, c'est le même fonctionnement ?
Oui, c'est pareil. C'est vrai que c'est un ensemble de compétences qui fait que la société arrive à fournir un travail, et c'est ensemble qu'on arrive à rentabiliser nos entreprises. Donc ECODE et nous, effectivement, c'est bien la rentabilité de nos entreprises qui fait que à la fin de l'année, on arrive à avoir des reversements de bénéfices. Mais dans le fonctionnement annuel, c'est vraiment les efforts sont partagés.
D'accord. Alors je précise qu'effectivement, ce n'est pas dans la charte. Je viens de vérifier, mais de mémoire.
Oui, je l'avais regardé en diagonale.
D'accord, oui. Mais je pense qu'en fait, toutes les entreprises du réseau que je connais le pratiquent, notamment Easter Eggs, nos amis d'Easter Eggs qui nous hébergent sur Paris. Avant de faire la pause musicale, j'avais une dernière question sur cette partie, on va dire, recrutement, personnes salariées. Comment se passe, en fait, parce que souvent dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle j'ai un trou de mémoire. Les entretiens annuels, excusez-moi, d'évaluation, etc. Est-ce que dans ce genre de structure où finalement tout le monde est à égalité, est-ce qu'il y a des évaluations qui sont faites ou pas du tout ? Des évaluations individuelles, j'entends. Hein.
Oui. Alors, chez nous, ce qu'on nous pense, on n'appelle pas ça des évaluations individuelles, c'est des entretiens individuels. Donc, c'est Yannick chez nous qui fait passer les entretiens de tout le monde. C'est une manière pour nous aussi de voir les souhaits de formation de chacun, s'il y a besoin et que ça n'a pas été exprimé, parce que il faut voir aussi que des fois il y a certaines personnes qui ont plus de mal à s'exprimer en grand groupe et qui des fois en réunion vont pas forcément souhaiter aborder certains sujets. En réunion, alors c'est dommage, des fois on pourrait le déplorer, mais l'entretien annuel chez nous permet d'éventuellement aborder ces sujets-là de manière peut-être un peu plus anonyme, parce que des fois c'est des sujets qui tiennent à cœur et on a du mal à les sortir. Et du coup, ça pourra ressortir ensuite en grand groupe via une qui fait tous les entretiens annuels de tout le monde.
D'accord, donc c'est une façon effectivement de compenser le fait que certaines personnes n'osent pas s'exprimer dans des grands groupes, parce que le problème des grands groupes, c'est que souvent, c'est ceux qui parlent le plus, qu'on entend le plus, en fait, quelque part. Et cet entretien, il est fait par la personne qui est gérante, ou ça peut être fait par une autre personne ?
Alors non, chez nous, alors Yannick était le président avant, c'est toujours lui qui fait, c'est parce qu'il c'était son souhait déjà. C'était quelque chose voilà qui aime bien faire, et chez nous c'est lui qui gère plutôt la RH, donc même les recrutements souvent c'est lui qui fait les premiers entretiens, donc il a l'habitude de faire ces entretiens là et ça et du coup voilà, ça permet aussi d'avoir une continuité dans le temps, même si le responsable ou la responsable légale change. On a une continuité dans le temps de la personne qui fait passer les entretiens, ça permet d'avoir de voir l'évolution d'une année sur l'autre, du ressenti des personnes, parce que c'est important, de l'état d'esprit des gens, etc.
D'accord. Et côté Néride, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez ce genre de choses ou pas du tout ?
Non, on est plutôt pas bon là-dessus. Non pas par un souhait, mais parce qu'on ne sait pas trop comment le mettre en place. Donc on fonctionne un peu différemment. On a un temps tous les 15 jours où ceux qui veulent se rejoignent, ce qu'on appelle le lieu d'expression. Certains n'y vont jamais, certains ont besoin de s'y retrouver pour discuter, évacuer, papoter ou voilà, échanger sur des choses qu'ils ont vécues, plaisantes ou pas. Donc on essaie pour l'instant, on va dire, surtout de travailler là-dessus, mais il n'y a pas de temps d'entretien particulièrement dédié.
D'accord. De toute façon, quand il y a des temps tout au long de l'année, il n'y a pas forcément de besoin d'un temps annuel une fois par an. Écoutez, on va continuer cette discussion après la pause musicale, donc je vous invite à rester en ligne, évidemment. Nous allons écouter Dark Creatures par Miyu. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1. Thank you.
Nous venons d'écouter Dark Creatures par Miyu, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouvez les références sur causecommune.fm et sur april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous parlons actuellement du réseau Libre Entreprise avec Jean Couteau de la société Code Lutin et Catherine Hens de la société Nerei. Donc nous allons poursuivre la conversation que vous pouvez rejoindre d'ailleurs sur le salon web dédié à l'émission sur le site Cause Commune, bouton chat. Alors juste avant la pause, nous parlions de recrutement. Maintenant, on va parler un petit peu d'un point, parce que là, quelque part, on parlait un petit peu des entreprises du réseau, à l'intérieur du réseau. Là, on va parler un petit peu du réseau, notamment des relations, et notamment la notion de transparence, qui est un point essentiel dans la charte du réseau. Alors, on va commencer par la transparence interne, donc dans les entreprises, en fait, parce qu'en fait, si j'ai tout compris, pour que les personnes qui composent la société puissent, entre guillemets, la gérer, la gouverner correctement, puissent prendre les décisions de façon éclairée, eh ben, il faut qu'elles aient accès aux informations. Donc, comment se passe concrètement la transparence en interne dans vos entreprises, Catherine ?
Déjà par le partage de tous les documents, etc., tous les fichiers, c'est-à-dire que tout est sur un cloud, hein, et avec un accès ouvert pour tout le monde. Il n'y a pas de restrictions, quels que soient les éléments, que ce soit des éléments comptables, fiscaux, personnels, bulletins de salaire ou autres. Tout est hiérarchisé et nous avons aussi sur Libre Entreprise un certain nombre de documents qui sont aussi reversés directement. Donc, les autres entreprises peuvent très bien avoir accès à nos propositions commerciales, tout un tas d'informations qui leur permettraient aussi d'utiliser ces outils-là.
D'accord. Donc, pour bien comprendre, déjà en interne, ça veut dire que toutes les personnes salariées de la structure ont accès aux documents, donc qu'ils soient à la fois aux documents techniques, mais aussi aux documents commerciaux, etc. Donc, l'ensemble des documents sont accessibles sur un outil interne, quel qu'il soit.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et côté Code Lutin, je suppose que c'est le même fonctionnement, vu que... mais bon.
Exactement. Exactement. On a tous nos documents partagés et tout le monde y a accès, etc. On a aussi on a des listes de diffusion. Catherine n'en a pas parlé, mais je sais qu'ils en ont aussi. Donc des listes de diffusion sur lesquelles on va mettre en copie cachée à chaque fois qu'on envoie une proposition commerciale, qu'on a un échange avec un client, etc. Et du coup, tout le monde sait, même sans suivre l'activité des commerciaux, tout le monde sait quelle proposition commerciale part à quel client ou quel prospect, quels contrats sont gagnés, sans avoir besoin. S'il y a un conflit avec un client X ou Y, ça peut arriver. Voilà, tout le monde est au courant vraiment de toutes ces infos-là, ce qui permet ensuite, effectivement, comme tu le disais, de prendre des décisions éclairées en réunion. Puisqu'on a vraiment toutes les informations.
D'accord. Donc vas-y, Catherine.
Oui, on partage aussi beaucoup par des outils de communication tels que Mattermost, par exemple, où il y a des salons par projet, ce qui fait que toute l'équipe est inscrite dans ces salons et peut suivre, on va dire, les échanges au fil du projet au quotidien, donc tout ce qui s'y passe, ce qui fait qu'il y a vraiment... L'information est à disposition. Après, certaines personnes souhaitent pas forcément suivre toutes les activités parce que trop noyées, parce que ceci, cela. C'est un choix personnel. Mais en tout cas, tout est mis à disposition par différents moyens. Il n'y a pas que l'accès au clé des documents. Il y a aussi le fil quotidien, du quotidien vécu par les projets qui est en accès. Ce qui est important aussi quand on ne fait pas forcément partie de l'équipe projet client.
D'accord. On va juste préciser que Mattermost, c'est un service de discussion instantanée libre avec plein de fonctionnalités. Et pour les personnes qui voient de temps en temps passer des pubs pour Slack, qui est une version privatrice, Mattermost est la version qui est libre. Et donc, on vous encourage évidemment à utiliser et que vous pouvez télécharger et installer sur sur vos propres machines. Donc ça, c'est les transparences internes, donc on a bien compris, accès complet à l'information, qui veut pouvoir accéder à l'information peut, et ensuite ça permet d'avoir une prise de décision éclairée. Ça, c'est interne entreprise, mais comme on l'a vu depuis le début, il y a un réseau libre entreprise donc qui regroupe une quinzaine de structures, donc il y a aussi une transparence intra-réseau quelque part. Alors, quel type d'informations sont partagées entre les membres du réseau et pour quel objectif en fait ? Jean Couteau de Code Lutin.
Ouais, alors on partage donc Catherine l'a dit tout à l'heure, on partage en gros nos documents également. Donc nous, on a nos propositions commerciales, etc. Des contrats qu'on peut faire, ça nous permet, et ça nous a permis d'ailleurs, par exemple, quand on arrive à vouloir développer une offre commerciale dans, par exemple, de la maintenance informatique pour des clients, alors qu'on n'en faisait pas avant, ben, on peut aller voir parmi les documents des autres entreprises, on peut les interroger, effectivement, sur pourquoi ils ont mis ça dans le contrat, etc. Donc ça, c'est les partages de documents. On a, comme on a à l'intérieur de nos entreprises, on a aussi des listes de diffusion dans le réseau qui nous permettent d'échanger, que ce soit sur la gestion de nos structures, que ce soit sur des questions techniques, ça peut arriver. Ça va être parfois sur un prospect, j'ai envie d'aller travailler avec un tel, est-ce que quelqu'un le connaît, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ça peut être ça. Ça peut être sur un client qui nous demande quelque chose qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne souhaite pas faire et que donc on va le proposer aux autres membres du réseau. Donc ça, c'est le type d'échange qu'on peut avoir. Donc l'objectif, c'est vraiment de... il y en a plusieurs. Il va y avoir de partager notre réseau commercial. Typiquement, on préfère que nos clients... quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, ils aillent voir des entreprises qu'on connaît et qu'on sait compétentes, plutôt que d'aller voir d'autres structures qu'on ne connaît pas et avec qui on aura potentiellement du mal à travailler. Alors que les entreprises du réseau, on sait qu'on n'aura aucun mal à travailler avec elles, puisqu'on les connaît, on sait très bien comment elles fonctionnent. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, comme vous avez pu le voir depuis le début, on a des principes qui sont similaires, mais on les met en œuvre de manière différente. Et donc ça nous permet d'échanger justement sur ces mises en œuvre. Il y a pu y avoir des discussions justement sur des types de réunions. On n'arrive pas à prendre des types de décisions. Voilà, comment vous en sortez chez vous. Là, je sais qu'il y a différentes entreprises qui se posent pas mal de questions et qui se renseignent comme ça.
D'accord. Catherine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la partie intra-réseau ? Puis j'aurai des questions un peu plus concrètes, enfin encore plus précises.
Oui, pour compléter ce que dit Jean, c'est vrai que l'une des questions sur lesquelles on a échangé lors d'une dernière rencontre entre entreprises du réseau, c'est comment grandir tout en partageant justement la gouvernance, etc., entre les vieux de l'entreprise qui ont une connaissance et puis les plus récents qui sont perdus, etc. Donc c'est vrai que ce sont des moments qui sont intéressants et enrichissants de partager pour se remettre en cause, pour aussi et faire évoluer nos propres modes de fonctionnement.
Alors, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que c'est une des questions que j'allais poser. Alors déjà, outre vos outils informatiques pour échanger, vous avez des rencontres physiques, enfin, quand c'est possible, actuellement c'est un peu plus compliqué, mais vous avez des rencontres physiques. Alors, une de mes questions notamment, c'était justement que tout à l'heure j'ai dit que Libre Entreprise avait été créé en 2002 suite à une annonce d'Emmanuel Ravière. Alors je sais plus s'il était à Easter Eggs ou Entrouvert à l'époque, là j'ai par contre un trou de mémoire. Mais par contre, comme tu viens de te dire, il y a des vieux, ou des vieilles structures, des anciennes structures, enfin des structures qui restent plus longtemps, comme Easter Eggs, Entrouvert, et puis il y a des plus jeunes structures. Alors comment se passent justement les relations ? Est-ce que toutes les structures, est-ce que les anciennes continuent par exemple à jouer le jeu ? Je crois que par exemple que vous aviez une obligation, entre guillemets, d'envoyer un rapport mensuel d'activité sur le réseau. Voilà, comment ça se passe effectivement à ce niveau-là ?
Alors bon, ça... Tout le monde joue pas forcément tout le temps le jeu. On n'a pas forcément des comptes rendus tous les mois de tout le monde, mais on a globalement des comptes rendus plus ou moins réguliers, ce qui nous permet d'avoir des retours. Mais les entreprises, souvent en fait, les entreprises qui sont nouvelles dans le réseau, justement, donnent un souffle et réactivent un peu par rapport aux anciens qui se connaissent bien. Qui se connaissent même très bien, puisque après 10, 15 ans dans le réseau, à se voir régulièrement, on a potentiellement un peu, je ne vais pas dire moins besoin, mais on se connaît un peu plus, entre guillemets, et il y a des choses qui sont pas forcément dites. Et voilà, les personnes qui sont plus récentes dans le réseau, les jeunes, les structures qui sont, alors ça peut être à la fois les personnes qui sont arrivées dans des structures plus anciennes ou alors des structures qui sont plus récentes, justement ramène des discussions et réactive un peu des débats plus anciens. C'est très intéressant.
Ouais,
c'est très très riche comme échange.
Qui font un petit peu partie de la culture partagée par les anciens, mais qui n'est pas forcément toujours connue, pas forcément toujours formalisée. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de la prise de décision dans les structures internes. Catherine, est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau du réseau? Et si oui, comment ça se passe?
Alors, en général, quand on prend des décisions, quand on se voit, donc c'est jamais des décisions qui ont été prises par des échanges de mails ou autres. C'est vraiment quand on fait des rencontres, donc ce qu'on appelle les rencontres LE. La dernière, sauf erreur, tu m'arrêteras, Jean, c'est à Namur, non?
Ouais, c'est vrai que ça.
Hein, donc on avait bloqué 3 jours où toutes les entreprises qui ont pu sont venues avec 1, 2, 3 personnes des entreprises qui souhaitaient se retrouver. On avait un certain nombre de thèmes qu'on a pu aborder autour de ce moment-là, et chaque groupe de travail rapportait après l'ensemble du groupe, et là effectivement des décisions ont pu émerger. Après, c'est toujours compliqué de faire le suivi de ces décisions, donc c'est une entreprise qui prend en charge tel sujet, on va mettre en place cette décision-là. Mais on reste toujours avec énormément de bienveillance sur chacune de nos entreprises, parce qu'on sait bien qu'on est pris aussi par le quotidien, par les projets clients, par tout un tas d'impondérables. Donc jusqu'à la prochaine rencontre, on essaie de tenir les engagements.
C'est des rencontres annuelles, c'est ça? Ou c'est en fonction des besoins?
Normalement.
Normalement, d'accord. Bon, là, le contexte fait que c'est particulier. Est-ce que d'ailleurs, vous avez prévu peut-être de faire une rencontre par outils de visioconférence, genre Big Blue Bluetooth ou Jitsi, ou vous préférez attendre que la situation sanitaire permette de nouveau des rencontres physiques?
On n'en a pas discuté entre nous.
D'accord.
Je ne sais pas s'il leur sortirait. C'est très difficile, je pense, ce type de réunion par visioconférence. Alors, je sais que nous, sur Nantes, il y a des communautés qui organisent des rencontres en visio en ce moment, avec des ateliers qui arrivent à le faire, donc peut-être que c'est faisable en fait, mais pour l'instant, on attend.
D'accord, ok. Alors, Catherine vient juste de parler justement des clients, parce qu'en fait, vous êtes quand même des entreprises du logiciel libre, donc vous avez des clients. Ça me fait penser, comment vos organisations et votre appartenance à un réseau libre entreprise est perçue par vos clients et partenaires? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est sur votre plaquette? Et comment ces structures clientes voient ça? Catherine.
Alors, c'est abordé effectivement au début, quand on se présente, quand on explique un petit peu ce que c'est que Mérélib et quels sont aussi le lien qu'on a avec les entreprises du réseau qui nous apportent leur expertise dans des domaines sur lesquels nous, on ne maîtrise pas forcément le métier, ce qui est normal, on ne peut pas être bon partout, c'est logique. Donc, ça permet aux clients de savoir qu'effectivement, on a aussi des partenariats qui peuvent être bâtis grâce à Libre Entreprise. Donc, je pense notamment, par exemple, sur des domaines de l'hébergement, clairement, c'est quelque chose qui n'est pas notre métier, mais pour lequel nous pouvons justement proposer aux clients d'autres partenaires de Libre Entreprise qui peuvent effectuer ce travail-là. Donc, ça a été concrètement le cas, d'ailleurs, au printemps dernier pour l'un de nos clients historiques qui est passé sur un hébergeur du réseau.
D'accord. Et côté Côte du Thym, ça se passe comment avec vos clients ou partenaires d'ailleurs, hein?
Oui, alors en général, on rentre vraiment pas du tout dans les détails au début de nos échanges avec nos clients. Ils le savent après. Pourquoi? Parce qu'historiquement, en fait, ça faisait un peu peur, en fait. Il y a 10 ans, quand on parlait de notre mode de fonctionnement, on nous regardait avec des grands yeux et entre guillemets, les gens ne nous prenaient pas forcément au sérieux, malheureusement. Et maintenant, avec les démarches RSE dans beaucoup d'entreprises
RSE,
et grands groupes...
RSE, est-ce que tu peux préciser ce que c'est, s'il te plaît?
Bizarrement, ça redevient à la mode. On devient à la mode. Et du coup, ça les intéresse. Du coup, on en parle un peu plus.
Je compléterai quand même, Jean, en disant que quand les clients nous font confiance et savent l'expertise qu'on a, ils ont tout à fait confiance quand on leur recommande quelqu'un. Donc vraiment, quand à tisser une relation de confiance, il y a aucun problème pour proposer quelqu'un.
Bien sûr, mais justement, nous, on parle du réseau, enfin, on aborde ce sujet-là dans un deuxième temps, en fait, quand ils nous ont vu travailler. Voilà. Et effectivement, par contre, une fois qu'on en a parlé, ils comprennent très bien et ils se projettent très bien. Ils sont souvent très contents de travailler avec nous aussi pour ça.
Juste préciser que RSE, c'est responsabilité sociale des entreprises. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est nos invités d'après qui s'installent, mais ne vous inquiétez pas. Alors, pour revenir sur le réseau, donc on a vu tout à l'heure une quinzaine d'entreprises membres. Bon, je suppose que certaines entreprises sont arrivées, d'autres peut-être parties. Comment ça se passe pour rejoindre le réseau? Il faut candidater, c'est vous qui vous dites, tiens, telle structure nous semble correspondre un petit peu en termes d'organisationnel à ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a un vote qui est fait par les membres du réseau? Comment ça se passe? Catherine ou Jean, je ne sais pas qui veut répondre.
Allez, Jean.
Alors, Jean Couteau.
Ouais. Du coup, ouais, quand il y a une entreprise qui veut faire partie du réseau, donc déjà, elle commence par nous contacter. Donc souvent, ça se fait plutôt de manière physique, d'ailleurs. On rencontre souvent les futurs candidats dans des salons, donc aux rencontres mondiales des logiciels libres, au Paris Open Source Summit. Et ensuite, les gens, du coup, on peut échanger avec eux, on peut présenter vraiment en détail la charte, etc. Et ensuite, c'est un processus, ça met plus ou moins de temps. Et une fois que les gens pensent qu'ils peuvent, qu'ils ont bien compris tout ce que ça impliquait, on a un parrain. Donc, ils demandent à un parrain d'être membre du réseau. Donc, dans un premier temps, ils sont observateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont partager sur les listes, etc. Ils vont avoir accès à un certain nombre d'informations, mais pas forcément tout. Et ils vont commencer à se contraindre, entre guillemets, à respecter les engagements du réseau. C'est-à-dire partager leur liste de diffusion, faire des comptes rendus, partager leur activité, etc. Et une fois que ils ont bien pris tout ce que ça impliquait, qu'ils sont entre guillemets mûrs pour faire partie du réseau, on a un vote entre tous les membres du réseau. Donc c'est à la fois les salariés et les structures, et à la fois les deux collèges entre guillemets qui soient d'accord pour que une majorité de salariés et une majorité de structures pour qu'ils fassent partie du réseau. Et ensuite, ils font partie du réseau comme les anciens, avec tous les avantages que ça procure.
D'accord. Catherine, tu veux compléter cette partie?
Moi, c'est parfait.
C'est parfait. Alors, le temps file, il nous reste quelques maigres minutes. Est-ce que, pour les gens qui s'intéresseraient à ce réseau libre entreprise, bon, en dehors de la charte, donc on trouve sur votre réseau, hein, libre-entreprise.org, il y a aussi la liste de toutes les entreprises. Hein. Est-ce que vous avez des conseils, je ne sais pas, de lecture, de podcast ou autre, pour comprendre ce mode d'organisation qu'on a décrit que partiellement, évidemment, aujourd'hui?
Alors, j'ai Favi, l'entreprise qui croit que l'homme est bon, qui est un livre qui raconte l'histoire d'une fonderie picarde, alors qui n'est pas aussi extrême que nous, peut-être dans notre mode de fonctionnement, mais qui a fait une transformation dans les années 80 sur un fonctionnement. Alors ils sont beaucoup plus nombreux, donc le fonctionnement est adapté à leur structure. Ils ont quand même un peu d'hierarchie, mais voilà, c'est l'histoire de leur transformation par la personne qui l'a menée, qui est très intéressant. Donc ça pas forcément aussi loin et ça est pas forcément dans le même contexte, mais ça pose déjà beaucoup de bases, je trouve.
D'accord. Alors on mettra la référence sur le site de la radio et sur le site de l'April. Et de ton côté, Catherine, est-ce que tu as quelque chose à conseiller?
Je peux proposer, c'est un livre qui permet d'ouvrir des réflexions, ce n'est pas à prendre à la lettre, mais il parle aussi des logiciels libres, c'est le livre de l'économie symbiotique, Régénérer la planète, l'économie et la société d'Isabelle Delannoy. C'est une ingénieure agronome qui entraîne des réflexions, voilà, sur trouver un juste équilibre entre l'humain, les écosystèmes naturels, les technologies.
D'accord,
on peut produire sans épuiser les ressources et en les régénérant.
Bah pareil, tu m'enverras la référence et on rajoutera ça. Et ça me fait penser qu'il y a une question que je n'ai pas posée et qu'on arrive en fin d'émission, parce que tellement elle me paraît logique. Parce que dans libre entreprise, il y a le mot libre, mais dans la charte, c'est quoi la place du logiciel libre? Alors rapidement, c'est le 100% logiciel libre ou c'est autant que possible le logiciel libre?
100%.
100% Jean, Jean?
Alors, si on reprend l'objet de la charte, c'est l'activité qui est centrée sur l'utilisation et la promotion des logiciels libres. Donc, je peux dire que nous, on n'est pas à 100%. On a un logiciel de comptabilité qui est privateur et dont on cherche à se débarrasser. Mais je pense qu'on va réussir en 2021, donc on croise les doigts. Mais on est à 95%, il y a toujours des petites verrues dans certains coins, mais globalement, on met des libristes dans toutes nos structures, donc on essaye de faire en sorte qu'on n'ait que du logiciel libre, même si des fois,
c'est ça,
des petites adhérences.
Ouais, on tend au maximum pour, évidemment, hein. C'est pour ça que l'adjoint c'est 100%, mais ce serait bien.
Donc c'est priorité au logiciel libre, mais pas forcément 100% en fonction effectivement des petites adhérences qui peuvent exister. Alors on arrive en fin de notre échange. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose en termes peut-être d'actualité, de besoins ou peut-être un résumé de notre échange rapidement, Jean?
En actualité, moi je pourrais parler des rencontres régionales du logiciel libre qui ont eu lieu à Nantes. Voilà, il y a un peu moins d'un mois et dont les vidéos vont être c'était en live sur YouTube puisque PeerTube n'a pas encore de fonctionnalité de live, donc le replay est disponible, mais ça devrait être disponible sur PeerTube quand on aura terminé le montage rapidement.
D'accord.
C'est à suivre.
C'est à suivre. Je rappelle, en parlant de PeerTube, je crois qu'il y a un appel à financement justement pour le rajout du streaming, live dans PeerTube. Et de ton côté, Catherine, quelque chose à ajouter ou une actualité, un appel?
Je dirais juste qu'on est en réflexion justement en cours pour proposer des soutiens aussi bien financiers par des prêts financiers, mais aussi par de l'aide aux structures sur leur démarrage numérique, comment choisir, quels outils de base choisir, etc. Donc, on est en train de travailler avec l'URSSCOP là-dessus pour aussi bien pouvoir donner un coup de pouce financier qu'un coup de pouce humain aussi.
D'accord.
Et puis sinon, on est toujours content d'accueillir des propositions de nouveaux coopérateurs si des gens veulent nous rejoindre.
D'accord, très bien. Ça me fait penser aussi, tu parles d'aide que Code Lutin a un mode de financement de projet. Je crois que vous venez de sélectionner, d'annoncer les projets que vous soutenez. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de votre chiffre d'affaires qui est reversé à des projets du logiciel libre. C'est bien ça, Paul?
Exactement, Jean.
D'accord. Bon, l'émission
exactement,
est un peu partie.
C'est exactement ça, et notamment PeerTube pour le live.
D'accord. Ouais, PeerTube, on va rappeler que c'est un système décentralisé de vidéos, donc qui est notamment développé par une personne qui travaille pour Framasoft, donc qui progresse vraiment à vitesse grand V, notamment par des soutiens financiers. Donc il y en a un en cours et que vous pouvez soutenir, et on mettra les références évidemment sur causecommune.fm. Et je t'ai appelé Paul, c'est ça? Ah, excuse-moi, parce qu'en fait il y a un Paul, je connais un Paul Couteau. En fait tu t'appelles Jean et voilà. Bon, l'émission est un peu compliquée aujourd'hui, hein. On a mal démarré, en espérant qu'elle va bien se finir, mais je pense qu'elle va bien se finir. Je vois mes deux invités ici. Donc en tout cas, écoutez, c'était un grand plaisir de vous avoir. Donc je rappelle, donc Jean Couteau de Code Lutin, Catherine Hens de Néréide et surtout du réseau Libre Entreprise, hein, libre-entreprise.org. C'est un grand plaisir de vous avoir. Et peut-être qu'on aura dans une prochaine émission d'autres membres du réseau, parce qu'on a déjà eu Easter Eggs, et on va poursuivre cet échange. J'espère que vous en êtes très contents, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci Fred.
Merci également.
Et à bientôt en tout cas.
Au revoir.
Au revoir. On va passer à une pause musicale. Alors, on va écouter Wasted Wonderland par Miyu. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Wasted Wonderland, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de causecommune.fm et sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez jour l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.fm et en DAB+ en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Que libérer d'autre que du logiciel ? La chronique d'Antanac. Antanac, comme je l'ai déjà dit l'occasion, eu l'occasion de le dire, ben on est voisins, hein, rue Bernard Dimet dans le 18e à Paris. Donc aujourd'hui, Isabelle Carrère et Fréco vont nous parler de téléphonie, de téléphone et de vie privée. Donc je crois que c'est Isabelle qui fait l'introduction.
Ben voilà. Une introduction hyper rapide. Bonjour Fred, bonjour tout le monde. En fait, l'idée c'est juste que je passe la parole à François puisque cette chronique, elle est bien une chronique d'Antanac et non pas de moi-même. Et donc, merci d'avoir accepté cette affaire.
Ah ben alors Fréco, ça va être à toi. Ton micro est allumé ou pas ? Bah vas-y, parle.
Oui, bonjour.
Non,
bonjour.
Ton micro n'est pas allumé. Tu peux recommencer, ton micro est allumé.
Bonjour Fred, bonjour Isabelle. Alors juste pour me présenter rapidement, moi c'est François ou Fréco, comme vient de le dire Fred. J'ai découvert le livre il y a 10 ans, après avoir refusé d'acheter un nouvel ordinateur pour remplacer le mien, qui ramait franchement avec Windows. J'ai depuis toujours été fasciné par la possibilité de redonner vie à des vieux PC avec des logiciels libres, et de partager cette expérience autour de moi. Et logiquement, je me retrouve totalement dans la démarche d'Antanac de revaloriser des ordinateurs récupérés, où depuis 4 ans, je participe à aider dans la préparation des distributions GNU Linux adaptées aux vieux, voire très vieux PC. Par exemple, vous pouvez venir dans nos locaux et tester comment Body Linux permet à un vieux PC avec seulement 1 giga de RAM de naviguer correctement sur Internet. Il faut vraiment venir l'essayer pour le croire. Voilà, et depuis 2 ans et mon passage enfin sur un smartphone, je milite pour diffuser les logiciels libres sur téléphone, d'où la chronique d'aujourd'hui, téléphone et vie privée. L'idée étant de prendre conscience de la collecte de données personnelles et des solutions pour y échapper, comme les applications et les systèmes d'exploitation libres pour téléphone. Alors aujourd'hui, les téléphones sont devenus des objets indispensables au quotidien qui nous suivent partout. Ils rentrent dans notre vie intime et récoltent énormément d'informations personnelles. Alors vous allez me dire que vous contrôlez vos données, que vous n'avez rien à cacher. Le souci étant que l'on n'a pas forcément conscience du niveau d'informations recueillies. On ne le voit pas tous les jours. Un cas par exemple où on peut le remarquer, c'est quand vous échangez 2 mots avec un ami que vous croisez dans la rue, en disant par exemple « Il fait beau, je me ferais bien un barbecue ce midi ». Et puis ensuite, plus tard, en reprenant votre téléphone, vous voyez une publicité pour des brochettes. À ce moment-là, on prend conscience que tout ce qu'on en dit à l'oral est analysé par le téléphone. Car sinon, le reste du temps, on ne se rend compte de rien. Aussi, un bon test pour prendre conscience de ce que peut garder en mémoire un géant du net comme Google. Vous allez sur Internet, vous cherchez Google Mon Activité ou My Activity, et là-dessus, vous pouvez, suivant les services Google que vous utilisez, vous risquerez d'être surpris par le niveau de renseignements collectés sur vous. Même moi qui ne me connecte jamais sur mon compte Google, j'y ai retrouvé l'historique de toutes les vidéos que j'ai visionnées sur YouTube depuis 9 ans, sauf celles que j'ai pu regarder depuis mon navigateur en mode privé. C'est franchement impressionnant, voire franchement flippant. Mais malheureusement, il n'y a pas que Google comme espion, il y en a d'autres. Par exemple, si, comme sur de nombreux téléphones, vous avez l'application Facebook de préinstallée, sachez bien qu'au premier démarrage de votre téléphone, l'application récupère tous vos contacts de votre carte SIM et la renvoie à Facebook. Que vous ayez un compte Facebook ou non, l'application ne se gêne pas pour récupérer vos données, même sans l'avoir utilisé.
Ah bon, mais alors du coup, comment est-ce qu'on peut savoir dans les applications par défaut quelles sont celles que j'installe ? Est-ce qu'elles respectent vraiment ma vie privée ?
Alors la seule garantie dont vous disposez, c'est l'utilisation d'applications libres. Par principe, tout le monde peut regarder le code du programme de l'application libre, pour l'améliorer entre autres. Il est donc impossible d'y cacher un programme espion, et si un développeur mal intentionné tentait quand même d'y glisser un mouchard, il se ferait rapidement bannir par la communauté. Ici, la confiance est basée sur la transparence. Et ce principe de logiciel libre fonctionne depuis plus de 35 ans et il est garanti par la licence libre, la GPL, pour General Public License.
Ok, alors sur les ordinateurs, on a l'habitude en Antanac des Logitech, des bibliothèques qui permettent de trouver tout ça. Et sur les téléphones ?
Alors sur Android, on a la chance d'avoir un magasin d'applications libres, F-Droid, pour Free Droid, qui permettent de rechercher, installer et de mettre à jour les applications disponibles. Et il y en a beaucoup, plusieurs milliers. Alors vous êtes sûr de trouver une application libre pour chaque fonctionnalité dont vous avez besoin. Vous pouvez voir sur le lien suivant une sélection des meilleures applications F-Droid sélectionnées par l'association Parinux. Donc pad.chapril.org/p/smartphone_libre.
Et alors du coup, grâce à ça, réellement, les téléphones ne peuvent plus espionner quoi que ce soit de l'activité ?
Alors cela limite l'espionnage des applications que vous utilisez, mais il reste toujours dans Android, conçu par Google, des services d'espionnage, dans le système d'exploitation lui-même.
Mmh. Et celles-là, on peut les supprimer du téléphone ?
Alors on peut le faire, mais c'est compliqué et risqué. Il faut savoir quoi modifier dans les fichiers système sans tout casser. C'est faisable, mais à réserver aux geeks.
Et alors, si on n'est pas geek, comment fait-on ?
Mais le mieux dans ce cas-là, c'est de changer complètement le système d'exploitation par un système entièrement libre, nettoyé de tout espionnage. Alors comme tu l'as expliqué Isabelle pour les ordinateurs le mois dernier, lors de la première chronique dans Tanak, on peut changer le système d'exploitation aussi sur un téléphone, qui reste un ordinateur plus. Alors la différence ici est que chaque sous-version de chaque modèle possède du matériel spécifique, comme l'écran, la caméra, le GPS, le Wi-Fi. Malheureusement, on ne peut pas avoir une image unique s'installant sur chaque téléphone, mais on a besoin d'une image pour chaque sous-modèle, s'adaptant aux spécificités de chaque appareil. Chaque appareil identifié par un unique code name. Pour que votre téléphone soit compatible, il faut donc qu'un développeur ait adapté le système à votre sous-modèle. La conséquence, c'est qu'il est plus facile de trouver des systèmes libres pour des modèles plutôt haut de gamme parmi les plus courants du marché. En installant un système d'exploitation libre, fini les applications propriétaires non désinstallables, pouvant récupérer vos données, on repart sur une base saine, optimisée, plus performante, à jour et donc plus sécurisée. Alors par contre, pour les iPhones, contrairement aux ordinateurs Mac, il n'est pas possible de changer le système d'exploitation. Mais il reste toujours la possibilité d'utiliser des applications libres. Pour savoir ce qu'il existe en libre sur l'iPhone, vous pourrez trouver toujours les renseignements sur le même page April, smartphone_libre, cité plus précédemment. Pour info, une astuce connue sur iPhone sous le nom de jailbreak, la sortie de prison, consiste à contourner le magasin d'applications payant d'Apple et non à changer le système.
Ok, et du coup pour les téléphones sous Android, on a le choix en système libre ?
Oui, alors là pour les téléphones basés sur Android, c'est une toute autre histoire. Il existe des systèmes basés sur la version libre d'Android qui permettent une compatibilité complète ou partielle des applications Android. Et à côté, on trouve aussi des systèmes GNU Linux sur téléphone. Alors oui, alors je précise GNU Linux pour les distinguer d'Android qui utilise un noyau Linux. Mais là, il n'y a plus rien de libre sur Android. Alors pour commencer avec les systèmes compatibles Android les plus populaires, on a Lineage ou Linéage à la française, le système le plus répandu et qui a fait sa réputation grâce à sa performance et à sa stabilité. En plus de libérer un téléphone, cela peut permettre de redonner vie à un vieil appareil en le remettant au goût du jour avec une base Android plus récente. À l'installation, il faut choisir entre la version de Lineage sans ou avec les services Google. Sans l'installation des services Google, donc on n'est pas du tout pisté, toutes les applications libres fonctionnent, ainsi qu'un certain nombre d'applications populaires propriétaires. Cependant, ce n'est pas forcément conseillé pour le grand public, car certaines applications dépendant des services Google ne fonctionneront pas. Comme par exemple Waze pour la navigation, très bien reconnue, qui a besoin de Google Maps pour fonctionner. Alors vous trouvez bien sûr l'équivalent sur F-Droid en libre, donc basé sur OpenStreetMap comme Osmond. Mais vu que cette application n'espionne pas les automobilistes comme le fait Google, vous n'aurez pas les mêmes informations sur les bouchons en temps réel. Voilà, donc sans les services Google, vous aurez un usage fonctionnel mais alternatif du téléphone par rapport à un Android classique. Donc si vous choisissez d'installer complètement les services Google, ici toutes les applications Android sont compatibles, jusque-là vous êtes pisté par le géant du net.
Bah oui, mais alors dommage d'en arriver là pour se faire totalement googliser. Bon, est-ce qu'il y a une solution pour avoir à la fois un usage strictement identique à un Android classique, mais en même temps garantir ses éléments de sa vie privée ?
Oui, alors voilà la magie du libre. Alors, beaucoup l'ont rêvé et les développeurs l'ont fait. Alors c'est une base Lineage sur laquelle vous pouvez utiliser les services Google tout en donnant de mauvaises informations aux espions de Google. Ce système s'appelle E, écrit /E/. Il est aujourd'hui le système idéal pour protéger sa vie privée, tout en étant accessible pour le grand public. Alors lors d'une prochaine chronique, on pourra détailler tous les autres systèmes d'exploitation existants pour smartphone, il y en a beaucoup, ainsi que préciser certaines informations sur l'installation d'un nouveau système d'exploitation sur votre téléphone. Mais avant cela, ça c'est juste qu'il est possible de se renseigner et de se faire installer son téléphone lors d'install parties, comme celle organisée par Parinux tous les premiers samedis du mois à la Villette, et que le site e.foundation propose des téléphones reconditionnés et neufs, déjà préinstallés avec E. Donc aujourd'hui, plus besoin d'être un geek pour se dégoogliser et de ne plus avoir de mouchard dans la poche. Maintenant, c'est à vous de choisir.
Voilà, puis on organise aussi régulièrement à Antanac donc des ateliers, soit avec toi et avec d'autres, pour aider aussi les gens à faire ça, soit comprendre ce qui se passe pour de bon, soit réellement modifier et changer son système sur son téléphone. Voilà.
Eh bien écoutez, merci François et merci Isabelle. Je rappelle que Antanac, c'est au 18 rue Bernard Dimay, dans le 18e à Paris. Cette émission est fatigante. Donc je répète, excusez-moi, 18 rue Bernard Dimay à Paris, et qu'avec l'aide de François et d'autres, pour répondre à la question de Tienne sur le salon web, vous pourrez vous faire aider à installer effectivement Lineage OS ou d'autres systèmes comme Réplicante. Et je rappelle qu'on a déjà parlé de téléphonie mobile et liberté dans l'émission du 6 novembre 2018 avec Paul Kosialowski et Aurélien. On va finir par quelques annonces. Merci François, merci Isabelle, vous restez avec moi. On va finir par quelques annonces. Alors, dans les annonces rapides, d'abord la réponse au quiz. Je vous demandais en début d'émission, enfin, que vous n'avez pas entendu, mais je vous ai demandé au milieu de l'émission, quel était le nom de l'association qui porte ce merveilleux projet de radio Cause Commune. Eh bien, l'association s'appelle Libre à Toi. Ouais, c'était un peu facile, hein. C'est donc le site web, c'est libre-a-toi.org. Donc, vous pourrez retrouver des informations. Autre annonce, le garage numérique que connaît bien en fait Antanac, association qui est donc dans le quartier des Amandiers, donc à Mélinemontant à Paris, a ouvert un poste afin de trouver une personne pour l'aider à travailler sur les systèmes d'exploitation GNU Linux. Donc vous pourrez trouver les références sur le site de legaragenumérique.fr, le garage numérique tout attaché. Et donc ça recrute. Autre recrutement, mais là ce coup-ci de bénévoles, c'est la maison des lanceurs d'alerte qui a besoin de personnes disposant de compétences informatiques pour perfectionner, maintenir et améliorer son système d'information, principalement basé sur des logiciels libres. Donc le site web, c'est mlalerte.org. Et là vous pouvez contribuer de façon ce coup-ci bénévole donc sur cette maison qui soutient les lanceurs et lanceuses d'alerte. Qu'il est important évidemment de soutenir. Vous retrouverez les événements autour du logiciel libre sur le site évidemment de l'agendadulibre.org. François vient de nous parler tout à l'heure des premiers samedis à la Cité des Sciences. Je ne sais pas si les premiers samedis ont repris en fait suite à la Covid.
Il parlait de reprendre, mais finalement, c'était reporté. Donc
D'accord. Bah, en tout cas, sur l'agenda libre, vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière annonce, j'ai encore le temps, mais très rapidement, c'est aujourd'hui le Ada Lovelace Day. Ada Lovelace, qui est la première personne à avoir réalisé un programme informatique. Je vous rappelle que nous avions, et je vous encourage à réécouter l'interview de Catherine Dufour dans l'émission du 19 novembre 2019 pour son livre Ada ou la beauté des nombres. Et évidemment, à acheter ce livre, lire, c'est totalement passionnant. Donc c'est le Ada Lovelace Day. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Vincent Calame, Catherine Hens, Paul Couteau. Ah ben non, Jean Couteau. Oh là là, putain, la catastrophe. Isabelle Carrère, François. Aux manettes de la régie, Isabella Vanni. Merci Isabella, tu t'en es très bien sortie sur cette grosse difficulté au début, qui est une difficulté technique. Je vais faire un grand merci à l'équipe des qui vous traite le podcast parce qu'ils vont avoir un gros travail aujourd'hui. Donc Sylvain Kutzmann, Antoine, Samuel Laurent, Olivier Humbert, Elodie Daniel Giraudon. Je ne sais pas laquelle personne traitera ce podcast, mais je lui souhaite bon courage. Merci également à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui s'occupe de la post-production finale et la mise en ligne sur le site. Merci également à Christian Momon qui va découper en podcast individuel pour chacun des sujets. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org, et sur le site causecommune.fr. FM, toutes les références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous poser des questions, nous faire des retours. Hein. Nous sommes à l'écoute. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Ah ben, je félicite Marie-Odile en fait, qui avait donné la bonne réponse pour le quiz. Effectivement, c'est l'association Libre à Toi. Je viens de le voir sur le salon web de la radio. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, à faire connaître également à la radio Cause Commune la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 20 octobre 2020 à 15h30. Je ne sais pas encore quel sera le sujet principal, que ça va être une rediffusion. Nous allons le choisir bientôt. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.